Demain, normalement, en faculté de théologie, il n'y a pas de cours. Mais comme les cours de philosophie se donnent en majorité du côté de la faculté des lettres, je ferai quand même cours. Bon. Mais les théologiens sont dispensés, puisqu'ils sont libres. Je crois qu'il n'y en a pas tellement, alors. Nous allons continuer cette recherche au point de vue métaphysique de l'être en acte et en puissance. Je vous disais la dernière fois comment se pose ce problème pour nous au point de vue philosophique, comment la recherche de l'ousia ne suffit pas. Je crois qu'il faut bien saisir cela pour comprendre qu'il y a une nécessité pour l'intelligence d'aller plus loin. Comment le langage est un signe qui nous montre que nous sommes bien obligés, si nous voulons regarder vraiment ce que représente le point de vue du langage, de nous poser la question. Nous pouvons aller plus loin, regarder l'expérience du fluxus, du mouvement, ce que je vous avais dit la dernière fois. Comment, de fait, le point de vue du fluxus, du mouvement, du devenir, ne peut pas s'expliquer uniquement par l'ousia. Au point de vue de l'être, il y a quelque chose qui est particulier. Si je ramenais le fluxus à l'ousia, je le ramènerais au sujet, à la substance première. Et la substance première est capable de mouvement, elle est capable des contraires, mais elle n'explique pas ce qu'est le fluxus, ce qu'est l'existence du mouvement. C'est ça, au fond, la très grosse difficulté. Qu'est-ce que c'est que l'existence du monde ? Relisez les pages de Bergson là-dessus, c'est très intéressant. Parce que, justement, pour lui, il considère qu'on a ramené le mouvement uniquement à l'action et à la passion. Et alors, on n'a pas saisi le fluxus. Autrement dit, Bergson fait le reproche à toute une perspective scolastique de ne pas voir suffisamment l'originalité du fluxus. Et il y a l'originalité du fluxus qui ne peut pas se ramener, évidemment, aux catégories. Le fluxus représente quelque chose de spécial. Je n'insiste pas plus, mais je crois que c'est important de voir le signe et le point de vue du fluxus. Je pourrais prendre en troisième lieu le point de vue de l'opération vitale. L'opération vitale, d'une manière encore plus forte, montre l'exigence de dépasser le point de vue de la substance, le point de vue de la qualité, le point de vue de la quantité, pour essayer de comprendre ce que représente une réalité vivante qui se meut. Et le primat dans le vivant, c'est ce qui caractérise le vivant, c'est que ce n'est pas seulement un devenir, mais c'est un devenir qui demeure, et qui demeure comme devenir, qui ne demeure pas comme substance, mais qui demeure comme devenir, et qui permet de comprendre comment, dans le vivant le plus parfait qui est l'homme, il y a l'amitié. Alors il faudrait comprendre comment l'amitié exige de poser l'acte, du moins exige de rechercher ce dépassement du point de vue des catégories. Je crois que c'est assez facile à comprendre cela. Parce que dans le vivant habituel, n'est-ce pas, au fond, ça demeure dans l'immanence de la nature. Et donc, le problème est assez analogue au devenir. Tandis qu'il y a dans l'être humain, dans le point de vue propre de l'amitié, il y a quand même le toucher affectif dans une connaissance liée à l'amour. Il y a le toucher de l'autre. L'ami, c'est ce qui me dépasse. Autrement dit, c'est mon bien. Autrement dit, c'est ma fin. Si c'est mon bien et ma fin, je touche quelque chose qui me transcende. Alors, par ce point de vue de la finalité et par ce point de vue du bien qui me transcende, je ne peux pas expliquer cela uniquement par le point de vue de la substance, par le point de vue de la qualité, par le point de vue de la relation. L'amitié est bien une relation, mais c'est une relation qui implique le toucher à l'égard d'un autre. Autrement dit, c'est là où, vous voyez, peut-être il y aurait le point de vue du bien qui exigerait de poser l'acte. Il y a un double mouvement, vous voyez, ici nous sommes dans le mouvement de montrer comment nous ne pouvons pas rester à la substance et que nous sommes en face de nouveaux problèmes au point de vue proprement métaphysique qui nous obligent de nous poser une nouvelle question. C'est ça qu'il faut chercher. Qui nous oblige de nous poser une nouvelle question, la question de en vue de quoi l'être. Alors il me semble que le bien saisi au niveau proprement de l'amitié, donc le bien de l'ami, ou plus exactement l'ami qui est mon bien, et moi qui suis le bien de l'ami, saisir l'autre en tant qu'il me dépasse, non seulement dans son existence, mais encore plus profondément dans sa qualité, mais pas la qualité d'une simple qualité, une qualité personnelle, son absolu, qui n'est plus simplement la substance. La substance ne peut pas m'attirer, puisque la substance est principe d'autonomie. Alors comment se fait-il qu'une personne est source de cette attraction ? Comment se fait-il qu'une personne puisse arriver vraiment, une personne autre que moi, arriver vraiment à me finaliser, à attirer au plus intime de moi-même, à m'attirer et donc à éveiller au plus intime de moi-même un amour. Alors, l'amour qui est un dépassement de soi, l'amour qui est extatique, qui me fait me dépasser pour tendre vers l'autre. L'amour est un mouvement vital, mais qui, justement, n'implique plus uniquement le point de vue de l'immanence, et implique quelque chose qui me fait tendre vers l'autre. Comment expliquer que la personne humaine puisse jouer ce rôle d'être un point d'attraction, un pôle d'unification qui attire l'autre. Je crois que là, il y a un problème au plan métaphysique qui est important parce que c'est le d'ordre de l'amour et donc nous sommes plus sensibilisés à cela et nous pouvons peut-être mieux saisir. Il y a toujours un certain étonnement de voir qu'on puisse susciter un amour. Comment se fait-il qu'on est une personne humaine comme toutes les autres personnes qui nous entourent, qu'on est lié à l'espèce humaine et qu'au niveau de la nature, on est la même nature. Donc vous voyez, au niveau substance, on est la même substance, on est la même nature. Comment se fait-il qu'on puisse susciter chez l'autre, qui a la même nature que nous, un dépassement ? Là, il y a quelque chose qui ne s'explique pas par le domaine de la substance et qui ne s'explique pas par le domaine des qualités. Ce n'est pas telle ou telle qualité, non. Ce n'est pas telle ou telle quantité. Encore moins. C'est pas par sa figura. C'est autre chose. Alors, le regard qui exprime plus que la qualité, et le regard qui exprime comment un être peut attirer un autre. Et ce serait la métaphysique du regard. Pas beau regard, mais la métaphysique du regard, n'est-ce pas ? Essayer de comprendre comment le fait qu'il y a une possibilité dans une personne humaine d'attirer, d'être cause finale d'un autre. Au niveau éthique, je le constate, pas plus. Et puis j'étudie ce que c'est que l'amitié. C'est déjà beaucoup. Je peux aller plus loin au point de vue métaphysique. Je peux avoir un regard métaphysique sur l'amour d'amitié. Et ce regard métaphysique sur l'amour d'amitié, c'est quoi ? C'est regarder le bien. La personne humaine qui est le bien de l'autre. C'est donc essayer de comprendre comment il y a un bien en moi qui suscite un amour. Pour une réalité qui est égale à moi, qui est semblable à moi, au point de vue substance, au point de vue autonomie substantielle dans l'ordre de l'être. Qu'est-ce qui permet cela ? Qu'est-ce qui fait que, de fait, il y a cette attraction que le bien est capable de faire ? C'est toujours très, très émouvant au plan métaphysique, hein, ça ? C'est l'émotion métaphysique, j'allais dire. Hein. Là, il y a un petit aspect métaphysique qui est... C'est ce que de reste ont développé toutes les métaphysiques de l'amour et toutes les métaphysiques du bien. Vous voyez, si la métaphysique se ramenait uniquement à l'ousia, si la métaphysique était une ousiologie et qu'on identifiait l'être et l'ousia, je peux tout à fait prendre cette hypothèse, puisque certains le font. Et que, de fait, Platon l'a fait. Le bien est au-delà de l'ousia. Platon le dit. Et là, il a raison. Il y a quelque chose dans le bien qui ne peut pas s'expliquer par l'ousia. Pourquoi Platon met-il le bien en soi au-dessus de l'ousia ? Pourquoi tout le néoplatonisme le fait ? Ça prouve justement qu'il y a dans le bien quelque chose qui ne peut pas s'expliquer par l'ousia. Et là, l'expérience me le montre. Je suis capable d'attirer quelqu'un, de susciter en lui un amour, et en suscitant cet amour dans cette personne, je ne comprends pas, puisque nous sommes semblables, nous avons la même nature, nous avons la même ousia. Donc il y a quelque chose qui ne s'explique pas par l'ousia. Ce que j'appelle le bien. Qu'est-ce que c'est ? Et là, je crois que nous touchons au plan métaphysique quelque chose de très important. Alors si je ramène la métaphysique à l'ousiologie, je suis bien obligé de dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la métaphysique, qui sera le bien. Qui sera au-delà du bien. Si au contraire j'arrive à découvrir ce que c'est que la métaphysique de l'acte, je peux comprendre comment le bien se ramène à cette métaphysique du bien. Vous voyez, le problème est là, hein. Il faut le saisir, parce que là il y a quelque chose, et historiquement en même temps, c'est l'avantage de cette raison, c'est que historiquement il y a un problème qui s'est posé chez Platon, un problème qui s'est posé chez les néoplatoniciens. Il y a le point de vue du dépassement du bien par rapport à l'ousia, par rapport à l'eidos. Alors, par rapport à l'amour d'amitié, je l'expérimente. Comprenons bien, j'expérimente pas le bien, j'expérimente l'amour. Le bien est au-delà de l'amour, puisque le bien suscite l'amour. Alors, si le bien suscite l'amour, et l'amour est un effet du bien, et donc si l'amour est un effet du bien, j'expérimente cet amour. Mais le bien, je dois le connaître. Je dois le saisir. Au-delà de mon expérience d'amour. Mon expérience d'amour peut m'empêcher de regarder le bien. Vous voyez, il peut y avoir ça, cette chose très curieuse, de dire « laissez-moi tranquille, j'aime, c'est suffisant. Je ne veux pas regarder le bien. » Parce que j'ai l'impression qu'en regardant le bien au-delà de l'amour, je me mets dans une perspective qui va refroidir mon amour. Je regarderai le bien, métaphysiquement. Et c'est très vrai. L'amour, au sens rigoureux, n'est pas au niveau métaphysique. C'est bien ennuyeux. N'est pas métaphysique. L'amour est au niveau de mon opération vitale, de mon opération spirituelle. Mais ce n'est pas la métaphysique. Exactement comme la conscience que j'ai de mon activité intellectuelle n'est pas la métaphysique. Alors, je dois donc dépasser l'amour tout en le respectant et tout en montrant qu'au point de vue vitalité spirituelle, c'est ce qu'il y a de plus grand. Mais je dois le dépasser pour essayer de comprendre la cause de cet amour, ce qui suscite cet amour. Essayer de comprendre que ce qui suscite cet amour, ce n'est pas l'ousia, ce n'est pas l'être en tant qu'ousia. Ce n'est pas l'être en tant que qualité. C'est l'être en tant qu'il m'apparaît capable de susciter en moi un amour. Ce que j'appelle le bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien comparativement à l'être ? Que représente cette dimension particulière du bien par rapport à l'être existant ? Est-ce que le bien est un surêtre ? Comme pour Platon, le bien est une sur-ousia, parce que l'ousia est identifié à l'être. Alors est-ce que je peux identifier le bien, justement, à un dépassement de l'être ? Vous voyez la question qui se pose. C'est là où, je crois, nous posons le mieux comment il y a une nécessité de revenir à ce qui est, pour saisir dans ce qui est quelque chose qui n'est pas saisi dans l'ousia. Bon, vous l'avez du côté du fluxus, mais vous l'avez de façon beaucoup plus forte du côté de l'amour d'amitié. Mon amour d'amitié est spécifié non pas par le bien, non pas par l'amour, mais il est spécifié par l'ami qui est mon bien. Et donc là, je suis obligé de regarder qu'est-ce que ça correspond au point de vue de l'être. Qu'est-ce que correspond au point de vue de l'être, ce fait que mon ami suscite en moi un désir, un appel. Ça correspond à quoi ? Que représente le point de vue du bien par rapport à l'être ? Je pourrais encore, j'essaie toujours, parce qu'il faut essayer d'introduire, c'est ça qui est important, parce que si vous ne voyez pas la question, vous ne voyez pas la réponse. C'est ce que dit Aristote à propos de la dialectique. La dialectique noue le problème. Alors on voit où, en effet, si je n'ai pas la métaphysique de l'acte, j'aurai la tendance de dire métaphysique de l'ousia et puis une surmétaphysique tout à fait particulière et qui est le point de vue du bien. Mais au fond, le bien, je ne l'étudierai pas parce que je le regarderai uniquement par le point de vue de l'amour. Alors, est-ce que du côté de l'activité de l'intelligence, est-ce que nous pouvons faire la même chose ? Ce qui serait intéressant, de voir du côté de l'intelligence. Nous avons le jugement d'existence. Nous sommes partis au point de vue métaphysique du côté du jugement d'existence. Est-ce que le jugement d'existence, ceci est-il épuisé dans son intelligibilité propre par l'arche, par la découverte de l'ousia. Ça, je crois que c'est aussi très important. Le jugement d'existence, donc ceci est-ce que c'est complètement épuisé par la découverte de l'ousia comme principe. Nous avions vu, si vous vous souvenez bien, j'avais remarqué cette phrase d'Aristote si importante, que le ti esti du toad égale le ti esti de l'ousia. Là, je suis dans l'ordre de l'interrogation. Alors, puis-je dire, dans l'ordre de la découverte, que l'ousia, qui est principe selon la forme de ce qui est, égale le jugement d'existence, ceci est. Vous voyez, les deux démarches, hein, c'est important. C'est pas commode, mais c'est intéressant à se poser la question pour mieux saisir comment c'est toujours en revenant au jugement d'existence, ceci est, selon des modalités différentes, mais c'est en revenant au jugement d'existence que je puis arriver à un dépassement de la découverte de l'ousia comme principe et comme cause de ce qui est. Au niveau interrogation, donc, il y a identité. Au niveau interrogation, mais au niveau découverte, faisons attention, vous voyez, au niveau découverte, hein, vous comprenez bien l'équivoque. Parce que le TST n'est pas dans la découverte. Il est le donné premier. La découverte, c'est l'ousia. Donc, au niveau découverte, je n'ai découvert que l'ousia. Alors, est-ce que l'ousia est égal au ceci est du point de départ? Alors, dans le ceci est au point de départ, forcément, est et ce qui actue. Ce qui actue le ceci. Et nous avions regardé le est, le indépendamment du ceci, pour lui-même. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et nous avions posé l'interrogation de l'ousia, nous avons posé la découverte de l'ousia par rapport à l'être. Alors, est-ce que l'ousia égale l'être? Oui, c'est là la question. Et c'est la question de savoir si la métaphysique est une ousiologie. Vous voyez que nous retrouvons le même problème, mais alors ici, du côté de l'intelligence. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de dire que, de fait, je ne peux pas identifier l'ousia et l'être? Du côté de l'amour, je le vois, c'est le bien. Et ça, c'est relativement plus facile. C'est relativement plus facile. Est-ce que je puis, dans la réflexion même du côté de l'ousia et du côté de mon interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, dire que ce n'est pas suffisant? Oui, je suis obligé de revenir à l'interrogation du TST. Est-ce que l'interrogation du TST, puisque l'interrogation du TST par rapport à l'être et par rapport à l'ousia sont les mêmes, est-ce que l'interrogation du TST qui implique la découverte de l'ousia est-elle épuisée? Ou est-ce que l'interrogation du TST par rapport à l'être va-t-elle aller plus loin? Ça, c'est de savoir si l'être comme tel est identique à l'ousia. Je ne peux pas identifier l'être et l'ousia. Pourquoi? Parce que l'être implique, comparativement à l'ousia, quelque chose de plus que l'ousia. Il implique quelque chose de plus. C'est pour ça que l'interrogation du TST du Toan et l'interrogation du TST de l'ousia, c'est très juste que c'est la même interrogation, mais je ne peux pas ramener l'une à l'autre. Je suis obligé de voir qu'il y a, du côté de l'interrogation du TST par rapport à l'être, quelque chose de nouveau que je cherche. Quelque chose de nouveau qui ne se ramène pas au point de vue de l'ousia. Alors, revenons à la question. Quand je dis « ceci est », j'affirme qu'il y a du côté de l'être que je saisis quelque chose qui actue le « ceci » et qui le montre dans toute son originalité. Et c'est pour ça que je dis, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, est-ce que l'être se ramène au principe? Non. L'être a plus que le principe. C'est que cet être, il peut être mon bien. Donc, il est au-delà de l'ousia. Je viens de le dire. Et cet être, en tant qu'il existe, il ne se ramène pas au principe, puisque chacun d'entre nous, nous existons d'une manière unique. Et chacun d'entre nous, nous avons l'ousia. Et donc, il y a nécessairement quelque chose de plus que l'ousia. Je dis, l'ousia est individualisée en chacun d'entre nous. C'est très vrai, elle est individualisée en chacun d'entre nous, mais elle garde son unité. Elle garde son unité et elle est actuée dans l'individuation. Et donc, si elle est actuée dans son individuation, cette ousia qui est commune pour chacun d'entre nous, comme principe d'être, au niveau de l'acte, a quelque chose, au niveau de l'existant, disons, au niveau de l'exister, a quelque chose d'irréductible. Mon exister n'est pas l'exister de l'autre. Et pourtant, j'ai la même substance que l'autre. Il y a donc, du côté de l'être, et de l'exister, quelque chose qui ne s'explique pas par l'ousia. Si, je reprends d'une autre manière, négativement, c'est toujours plus facile, si mon exister était adéquat à mon ousia, du fait que mon ousia est la même que celle de mon voisin, mon exister serait le même. C'est bien évident. Or, vous ne pouvez pas dire, c'est simplement une question d'individuation. Non, ce n'est pas une question uniquement d'individuation, parce que c'est toute mon individuation qui est en acte, qui existe. Il y a donc quelque chose en chacun d'entre nous qui est au-delà de l'ousia, et qui ne peut pas se ramener à l'ousia, et qui fait partie de mon être, et qui n'est pas mon individuation. Mon individuation met ça en lumière, mais mon individuation existe. Et alors il s'agit de comprendre cet exister dans mon individuation, au-delà de la substance. Vous voyez, c'est assez complexe, si vous voulez, mais en même temps, c'est assez simple. Parce que vous avez tout simplement qu'à comprendre que vous avez tous la même ousia. Ça, c'est sûr. Nous avons tous la même ousia. Tandis que je ne peux pas dire que nous avons tous le même acte. C'est curieux. Du côté de l'acte, je ne peux pas dire que j'ai le même acte que vous. C'est mon originalité. Et c'est la vôtre aussi. Je n'ai pas votre acte. Tandis que du côté de l'ousia, nous pouvons donner la main. Parce que cette ousia, elle fait partie de la nature humaine. Il y a donc quelque chose dans l'ordre de l'être qui ne peut pas se ramener à l'ousia. Alors j'interroge, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose dans l'ordre de l'être qui est fondamental, qui est quelque chose qui est ultime et qui est en même temps fondamental puisqu'il est dans l'individuation? Il touche bien la substance, c'est pas extrinsèque à la substance, mais ça va au-delà de la substance. Et ça permet d'expliquer comment, de fait, il y a en chacun d'entre nous quelque chose d'unique. Ça touche le bien, ça touche ce qu'il y a d'ultime en moi, ça touche le devenir et donc tout mon conditionnement par où je suis un individu. Vous voyez les trois pointes? Je crois que ce sont les trois pointes par où je touche ce dépassement. Il faudra voir ensuite si ce que je découvre explique ces trois pointes. Le devenir, mon fluxus, donc c'est mon conditionnement, ça c'est évident, ça touche mon individuation très fort, mon bien, par où je suis un bien, et par où je suis quelque chose qui existe au-delà de la substance parce que mon existence implique cette originalité unique, ce fluxus, ce bien, et puis mon exister, si vous voulez, mon exister, pas l'exister de ma substance, pas l'exister particulier, mais mon exister particulier, par où je suis. Je suis un exister irréductible aux autres. Et mon exister assume bien mon ousia, mais il est au-delà. Il assume bien mon ousia individuel, mais il est au-delà. Par où je suis, j'existe, et j'existe d'une manière unique. J'existe distinctement de tous les autres. Je crois que ce sont les trois points, vous voyez, par où je vois que je ne peux pas rester uniquement à la découverte de l'ousia. C'est pas commode de découvrir l'ousia, mais je ne peux pas y rester. Vous savez, quand une chose est difficile à découvrir, on y reste. Alors je vois comment l'ousia ne peut pas être entièrement la déesse qui demeure. Vous voyez, ça m'a servi au point de départ, la déesse qui demeure, chez Platon. Et je vois très bien comment Platon peut très bien dire que l'ousia, c'est la déesse qui demeure. Parce que pour Platon, être et ousia, c'est la même chose. Pour Platon, la métaphysique est une ousiologie. Mais pas pour Aristote. Il y a quelque chose d'autre. Et pas pour la réalité, hein, indépendamment d'Aristote. Pas pour la réalité, si je réfléchis bien, je ne peux pas être platonicien. Je ne peux pas, c'est impossible que je sois platonicien. Il y a quand même quelque chose qui est mon exister. Mon exister dans son originalité propre. Il y a la question du bien qui fait partie de mon être et comment j'attire un autre. Ce n'est pas quelque chose qui m'est surajouté. C'est ma personne qui attire l'autre. Et comment j'ai ce fluxus, ce devenir qui est aussi quelque chose qui me touche et qui fait partie de mon être. Donc, je vois à partir de là qu'il y a nécessairement dans la réalité qui existe, dans le jugement d'existence ceci est, quelque chose qui n'est pas épuisé par l'ousia. Donc, le tiesti du toan, il est bien le même que le tiesti de l'ousia, mais il n'est pas épuisé par le tiesti de l'ousia. Il faut aller plus loin. Ce plus loin, c'est donc essayer d'interroger l'être en demandant à l'être ce que représente l'être comme bien qui m'attire. La capacité qu'il y a dans l'être de finaliser. La capacité dans l'être qui a de finaliser. Et donc, pour saisir la capacité dans l'être qui a de finaliser, c'est donc saisir l'être comme fin. Puisque s'il n'est pas fin, il ne peut pas finaliser. S'il finalise, s'il est le bien, il finalise. Et donc il faut se demander quelle est la capacité de l'être en tant qu'il est capable de finaliser, en tant qu'il est quelque chose qui finalise, qui explique le fluxus au-delà de l'action et de la passion, qui explique aussi mon exister dans son originalité propre. C'est pas mal, hein, comme diverses questions qui dépassent le point de vue de l'ousia. Et chacune de ces questions, je crois que je suis obligé de les prendre, chacune de ces questions va nécessairement me faire poser la question du point de vue de la perfection de l'être, la plénitude de l'être, ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Voilà l'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être? Vous voyez, au fond, quand je dis « en vue de quoi », je pourrais peut-être traduire « en vue de quoi » tout simplement de dire « qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être ?» C'est peut-être plus facile pour moi de comprendre que « en vue » qui reste toujours lié à l'éthique. Tandis que ce qu'il y a d'ultime ne reste plus lié à l'éthique. Et c'est important de bien formuler l'interrogation. Puisque c'est en formulant l'interrogation que mon intelligence s'apprête à découvrir dans la réalité ce qui est. Vous voyez, l'interrogation permet l'accueil de l'intelligence. Je crois que ça, c'est très important à comprendre. C'est en interrogeant que vous devenez accueillant. Parce qu'en interrogeant, vous êtes mendiant. Alors vous devenez accueillant. Et c'est dans la mesure où votre interrogation se fait bien que vous êtes accueillant pour cet aspect particulier de l'être. Si vous n'êtes pas accueillant, vous ne découvrirez pas. Il faut essayer de comprendre ça, c'est curieux, hein. C'est un aspect d'interrogation qui est important à saisir, puisque l'interrogation, c'est l'intelligence tendue, l'arc tendu, et donc c'est en même temps l'accueil. Mon intelligence va devenir accueillante en interrogeant. Et mon intelligence, en devenant accueillante par l'interrogation, se met proche de la réalité qu'elle accueille. C'est ça qu'au fond, on ne découvre que ce qui est contenu dans l'interrogation. Je découvre vraiment que cela. Si je ne suis pas en accueil, je ne découvre pas. Je passerai au-dessus. Alors vous comprenez que c'est intéressant de voir que le tiesti du toad va continuer. Et c'est peut-être pour ça qu'Aristote ne dit pas en vue de quoi et qu'il reste dans l'ordre du tiesti. Qu'est-ce que c'est que l'acte? Alors, qu'est-ce que c'est que l'acte? J'ajoute, dans ce qu'il a d'ultime. Je ne dis pas, qu'est-ce que c'est que l'acte dans ce qu'il a de fondamental, dans ce qu'il a de premier. Je dis, qu'est-ce que c'est que l'acte dans ce qu'il a d'ultime. Et ce serait peut-être de cette manière-là que mon intelligence devient accueillante à l'égard de la réalité pour saisir dans le point de vue du jugement d'existence, ceci est, ou j'existe, ce qu'il y a d'ultime. Ce qu'il y a d'ultime du côté de ce qu'on appelle le bien, ce qu'il y a d'ultime par rapport à mon existé, ce qu'il y a d'ultime dans le fluxus. Au fond, c'est l'être en tant qu'il est capable d'envelopper. Alors là, voyez, vous auriez toute cette fameuse explication de l'enveloppant. Curieux du reste. L'enveloppant, pourquoi on emploie enveloppant? C'est la question du lieu. Le lieu, au niveau physique, finalise l'être physique. Si je fais une métaphysique, j'ai un méta-lieu. Et le méta-lieu, c'est ce qui enveloppe. Oui. C'est l'être enveloppant. C'est l'être dans ce qu'il a d'ultime. Alors, faisons attention, hein, je dis ça uniquement à titre de petit bémol, hein, à titre de nota bene, pour essayer de comprendre ce que c'est que cette philosophie de l'enveloppant. C'est quand même très intéressant, parce que cette philosophie de l'enveloppant, c'est très ancien, vous savez. Quand je regarde la Peyronne, comme ce qu'il y a de premier, c'est l'enveloppant. Nous avons en nous comme une espèce de désir de comprendre que notre être est capable d'envelopper. De saisir en enveloppant. Alors, je ne l'ai pas mis ici, hein, mais vous pouvez le mettre ça en nota bene. Ça ne fait pas partie de la structure directe, mais ça fait partie d'un symbolisme. C'est la manière symbolique de saisir l'acte, de le saisir comme l'enveloppant. Et comme c'est tellement difficile de saisir l'acte, il faut essayer de prendre tous les moyens. Alors, quelquefois, la symbolique a du bon. Et la symbolique ici du bon, c'est en effet, il y a quelque chose de très particulier, le super-lieu, le méta-lieu, qui est comment l'être devient accueillant vis-à-vis d'un autre. Et il est accueillant vis-à-vis d'un autre dans la mesure où il atteint sa perfection et sa plénitude. Vous n'êtes accueillant vis-à-vis d'un autre que dans la mesure où vous avez atteint votre plénitude. Vous n'avez qu'à réfléchir un instant. Quand vous êtes en état de recherche, vous n'êtes pas accueillant. C'est impossible. Vous êtes en état de recherche. Quand vous avez atteint quelque chose d'ultime, à ce moment-là, vous pouvez être accueillant. Il faut que l'être se repose pour être accueillant. Et donc, il faut que l'être atteigne quelque chose qui est ultime en lui. Alors, il devient le lieu d'un autre et il l'enveloppe. Il n'est le lieu d'un autre que quand il est l'enveloppant. Vous voyez, la manière symbolique de regarder le point de vue de quelque chose qui n'est pas la substance. La substance n'est pas enveloppante du tout. La substance, elle structure. Un être très structuré n'est pas enveloppant. Pas du tout. C'est tout à fait autre chose. Il faut un être qui atteigne ce qu'il y a d'ultime en lui pour être capable d'attirer et d'envelopper. Vous voyez, vous retrouvez les deux aspects de l'amour. Il attire et il est enveloppant. Alors c'est quand même curieux de voir que c'est ce côté-là de l'interrogation. Vous voyez, c'est ça que je veux vous saisissiez pour que votre saisie, la répétition de l'induction d'Aristote, ne passe pas au-dessus. Vous compreniez ce que ça veut dire du côté de l'intelligence. L'intelligence veut saisir le tiesti du toan. C'est toujours le tiesti du toan. On est en métaphysique. C'est le tiesti du toan, mais c'est le tiesti du toan dans ce qu'il a d'ultime, dans ce qu'il a de dernier. Vous voyez, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, c'est très vrai du côté de l'être, du côté de la détermination. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller quand je pose le tiesti ultime, c'est du côté de la capacité de finaliser, la capacité de susciter un amour, la capacité, le fluxus, le lieu, le métalieu, si vous voulez, comment l'être peut envelopper un autre et comment l'être a son originalité propre, individuelle. Alors c'est ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de l'être. Et c'est peut-être ce que nous devrions, vous voyez, dans cette interrogation, non pas mettre en vue de quoi, mais ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être ? J'interroge de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il y a d'ultime ? Ce qui permet de comprendre comment l'être, de fait, est capable de susciter un amour. En tant qu'être bon, mais en tant qu'être, il suscite un amour. Pour susciter un amour, il faut soi-même avoir atteint ce qu'il y a d'ultime. Si on n'a pas atteint ce qu'il y a d'ultime, on ne peut pas. Il faut atteindre une certaine perfection. À ce moment-là, l'être suscite un amour. Il est capable de susciter un amour pour un autre, dans la pure gratuité. Oui, réfléchissez sur ces différents aspects-là pour comprendre comment le problème se pose du dépassement de l'ousia. C'est ça qui m'intéresse. Du dépassement de l'ousia. Alors évidemment, vous pouvez le faire aussi du côté de la qualité, c'est sûr. Mais je crois que les points de vue que nous donnons là me semblent plus importants, plus immédiats. Vous voyez ? Alors à partir de là, nous revenons à l'expérience, comme toujours. Toute interrogation nous oblige de revenir à l'expérience. Mais nous ne regardons dans l'expérience non pas le point de vue de la détermination, mais ce qu'il y a d'ultime. Alors, nous verrons ça demain, la grande manière de découvrir le point de vue de l'acte et de la puissance. Comme sera la fête de Saint Thomas, il y aura une grâce particulière.